Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 13 de La vie est un conte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'appelle Chitesh et Danesh et elle est issue de l'ouvrage Formé par les contes de Philippe Coste et Martine Bijard. Il était une fois, deux fois, maintes fois, une grande île où il y avait deux royaumes. Le premier, à l'est, était gouverné par Danesh. Chitesh régnait sur le deuxième, à l'ouest. Danesh et Chitesh étaient jumeaux. Or, s'ils possédaient le même visage aux traits élégants et fins, s'ils partageaient la même bienveillance dans le difficile exercice de leur pouvoir, l'un, Danesh, aimait l'or et les fastes, tandis que l'autre, Chitesh, n'appréciait rien tant que la discrétion et la modestie. Ces différences n'altéraient nullement l'estime et l'amour qu'ils se vouaient mutuellement. Aussi, chaque année, au premier mois du printemps, l'un rendait visite à l'autre et l'année suivante, l'autre lui rendait l'appareil. Cette année, c'était au tour de Danesh de venir voir son frère. Comme toujours, il fut reçu avec grande affection, mais sans apparat luxueux ni pompe ostentatoire. Pas de route couverte de pétales de fleurs, pas de parement somptueux pour la ville, pas d'éclat de pierres précieuses sur la vaisselle du banquet. Danesh connaissait son frère et respectait sa simplicité. Il ne s'offusqua pas. La journée se déroula fort bien, entre visites protocolaires aux dignitaires, défilés et revues. Au crépuscule, alors qu'une jolie brise chargée de senteurs délicates s'était levée, les deux frères descendirent dans les jardins du palais pour profiter de la douceur du soir. Ils marchèrent côte à côte, en silence, jusqu'au bassin des sept pierres. Là, Danesh prit un caillou et, tout en le jetant distraitement dans l'eau, il demanda à Chitesh « Mon frère, ma moitié aimée, je suis soucieux. J'ai congédié mes 30 conseillers. Ils me coûtaient les yeux de la tête et les cheveux du crâne. Une ruine pour le trésor. Mais un roi ne peut se passer de conseiller. Et je me suis dit en moi-même, mon frère Chitesh pourra peut-être mettre à ma disposition l'un des siens. » Mon frère, mon sang pareil, répondit Chitesh, il n'est de service que je ne puisse te rendre. Je vais te présenter mon seul et unique conseiller, la perle parmi les perles. Tu le jaugeras et s'il te convient, nous le partagerons. Comment ? S'esclaffa Danesh. Tu n'as qu'un seul et unique conseiller ? Je te savais économe et simple, mais tu me surprends encore. Suis-moi, répondit Chitesh, une lueur malicieuse dans les yeux. Ils remontèrent au palais. Arrivé dans la salle du trône, Chitesh pria son frère de l'attendre. Il sortit par une porte dérobée. Quelques instants plus tard, il réapparut, flanqué d'un homme ni grand ni petit, le cheveu rare, vêtu d'un sari bleu nuit. Chitesh fit signe à l'homme de prendre place et s'adressa à Danesh. « Mon frère, mon sang pareil, voici Shanti, mon seul et unique conseiller. Non seulement j'ai toute confiance en lui, mais plus encore, je le tiens pour le meilleur des conseillers. » Danesh se leva et, s'approchant de Shanti, il lui demanda « Mon frère vient de faire ton éloge, mais toi, qu'as-tu à dire ? Seras-tu capable d'être aussi bon conseiller pour moi que pour lui ?» Parle. Shanti fixa Danesh de ses grands yeux noirs et ne répondit pas. Je t'ai posé une question, reprit Danesh. Tu peux répondre sans crainte. Les yeux de Shanti ne quittèrent pas ceux du souverain. Il ne répondit pas. Danesh s'emporta. « Eh bien, parle, que t'arrive-t-il? T'aurait-on coupé la langue ?» À ces mots, un grand sourire illumina le visage de Shanti. Alors, Chitesh dit à Danesh, « Tu ne peux mieux dire, mon frère, mon sang pareil. Shanti n'a pas de langue. » Éberlué, Danesh regarda son frère. « Muet? Ton seul et unique conseiller est muet? Celui dont tu me dis qu'il est la perle parmi les perles, le meilleur des conseillers, celui-là est muet ?» Et alors, dit Chitesh en souriant, « Ce n'est pas sa langue qui est précieuse, mais son oreille. » N'écoute les conseils de personne, sinon du vent qui passe et nous raconte les histoires du monde. Claude Debussy. À la première lecture de ce conte, ce qui m'a touché particulièrement, c'est l'amour, le respect et la douceur qui se dégagent de la relation entre les deux protagonistes. Les deux frères ont des personnalités différentes, comme dans toute fratrie, mais cela ne les éloigne pas l'un de l'autre, au contraire. Comme le disait Saint-Exupéry, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Et ce conte en est une belle illustration. Ils se rejoignent également, ces deux frères, par bien des aspects, et notamment leur soin commun à gouverner avec bienveillance. Même s'ils ne se voient qu'une fois par an, ils n'en abandonnent pas pour autant leurs responsabilités. Et ils s'adonnent aux visites protocolaires, aux dignitaires, aux défilés et aux revues. Lorsqu'ils descendent dans le jardin pour profiter de la douceur du soir, seul Chitesh est véritablement présent à ce qu'il fait, à l'ici et maintenant. Son frère Danesh jette distraitement un caillou dans l'eau tout en faisant part de ses soucis. Il est ailleurs par la pensée. Sans doute dans son territoire de l'Est, et à un autre moment, peut-être dans le futur, à son retour. Combien de fois par jour nous surprenons-nous, nous-mêmes, à être là-bas, ailleurs, et non pas ici et maintenant? Une formidable façon de quitter l'ici et maintenant est le téléphone portable, qui est pour moi une véritable fenêtre toujours disponible vers l'ailleurs et autrefois. Donc Danesh, au lieu de profiter de la brise du soir, est dans ses pensées et ses soucis dont il fait part à son frère. Se préoccupant des finances de son gouvernement, Danesh a congédié tous ses nombreux conseillers et il ne sait comment gouverner sans. Il s'accroche à la croyance qu'un roi ne peut se passer de conseiller. Sans doute l'a-t-il toujours constaté et l'a-t-il toujours entendu. Aussi ne remet-il pas en cause cette pensée. Et ainsi, il s'auto-limite. On en revient aux croyances limitantes dont nous avons parlé, je crois, au premier épisode. Donc, dans ce conte, tout se passe comme si Danesh avait perdu en ses conseillers une béquille qui lui permettait d'avancer. Il est donc dans un rapport de dépendance. C'est un peu comme s'il avait externalisé sa capacité à gouverner et se retrouvait démuni. Nous voyons parfois cela en entreprise, avec une certaine dépendance aux consultants. Comme si, en interne, nous n'avions pas les ressources nécessaires. Comme si nul n'était prophète en son pays et que l'extérieur savait mieux que l'intérieur. Parfois, il y a en effet besoin d'aller chercher une expertise très particulière et du coup, c'est cela légitime d'aller en externe. Mais un recours trop systématique à l'externe me semble être contre-productif et faire perdre confiance aux équipes en leur capacité à faire. Revenons au conte. La première surprise de Danesh est de constater que son frère parvient à mener son royaume avec un seul et unique conseiller. Et qui plus est, il n'en a pas besoin H24 puisqu'il est même prêt à le partager avec Danesh. Cependant, il existe et il est précieux. Il est, selon Chitesh, la perle parmi les perles. Ce n'est pas rien. Mais Danesh n'est pas au bout de ses surprises et il va bientôt s'apercevoir que ce fameux conseiller est muet. On pourrait se demander, comme Danesh, mais à quoi bon s'il ne peut pas donner de conseils? Un élément de réponse est donné par Chitesh quand celui-ci parle de sa précieuse oreille. Chitesh recherche avant tout quelqu'un qui puisse l'écouter pleinement. D'ailleurs, lors du rapide dialogue entre Danesh et le conseiller Shanti, on voit que celui-ci est pleinement attentif et le fixe intensément du regard. Pourquoi cette écoute est-elle si importante? L'Américain Carl Rogers a développé le concept d'écoute active. L'écoute active consiste à comprendre l'interlocuteur sans juger ses arguments. Celui qui pratique l'écoute bienveillante évite les idées préconçues et les interprétations. Il peut utiliser les silences et faire preuve d'empathie. La personne peut ainsi se sentir écoutée et respectée. Une relation de confiance peut alors naître. Carl Rogers prônait une pédagogie de la découverte. Il disait « Tout ce que je vais faire chercher à enseigner à l'autre, je vais l'empêcher de le découvrir. » À certains moments de sa vie, il peut y avoir un besoin d'être accompagné. La posture de l'accompagnant peut alors être minimaliste. C'est un peu la posture qu'adopte le coach. Il s'agit de rejoindre l'endroit où je ne sais rien, je ne veux rien, je ne peux rien pour l'autre. Si je sais pour l'autre, je ne l'accompagne plus, je vais le guider. Aussi, en tant que coach, il s'agit de rester à l'endroit de pleine curiosité, sans jugement aucun, où j'essaie de parvenir à voir le monde avec la même paire de lunettes que mon interlocuteur. Je questionne la signification des mots. C'est quoi pour vous être reconnu dans votre travail? Ça se manifeste comment? Le deuxième point, je ne veux rien pour l'autre, au sens où ça doit m'être complètement égal si mon client veut choisir la solution A ou la solution B ou encore la solution C. C'est lui et lui seul l'expert de sa situation. C'est lui qui sait. Et enfin, je ne peux rien pour l'autre, c'est justement éviter le piège de la toute-puissance et aussi celui de mettre l'autre dans la dépendance. Le coach, le thérapeute ou même le bon ami qui sait retenir le conseil sont utiles dans ces moments-là, car nous avons besoin de l'autre pour avancer. C'est un besoin d'altérité. L'autre nous apprend, l'autre nous tend un miroir. Il ne faut pas confondre, la réponse est avec l'autre, mais elle n'est pas en l'autre. Ici, Shanti a plus une posture de coach que de conseiller, puisque muet, il ne peut donner aucun conseil. Dans nos sociétés, nous sommes très formatés solutions. Il peut être tentant, quand un proche vient nous voir avec un problème, de lui donner des conseils. « Tu pourrais faire ça. J'ai connu dans le passé une situation similaire et à ta place, je ferais ça. » Il y a en effet quelque chose qui peut même être gratifiant dans le fait de donner des conseils, de se prêter à l'illusion d'être utile et contributif, d'avoir le sentiment d'aider l'autre, voire d'avoir résolu son problème, sans voir qu'en faisant ça, dans une autre vision du monde, ce serait même faire insulte à l'intelligence de la personne qui a ce problème depuis peut-être plusieurs semaines. Et puis là, j'arrive, qu'est-ce que je peux faire? Bah t'as qu'à faire ça. Donner un conseil, c'est projeter sur l'autre une solution issue de notre propre urbanisation mentale. Or, l'autre n'est pas nous. Il ne vit pas le même contexte. Il ne s'appuie pas sur les mêmes ressources. Donner un conseil, c'est empêcher l'autre d'apprendre en faisant l'économie d'une réflexivité sur sa pratique. Vous connaissez sans doute cette phrase très célèbre « Donne un poisson à un homme, tu le nourriras un jour. Donne-lui une canne à pêche, tu le nourriras toujours. » Comment pouvons-nous être plutôt des pourvoyeurs en canne à pêche? On pourrait dire que Danesh a congédié 30 poissonniers et se retrouve bien impuissant. Or, si ces poissonniers lui avaient donné une canne à pêche, il serait continué à avancer seul. La première conviction du coach est que son client a toutes les ressources nécessaires en lui pour résoudre son problème et atteindre ses objectifs. Aussi, j'ai envie de vous proposer un processus créatif qui vous permettra de vous auto-conseiller en faisant parler les différentes parties de vous-même grâce à un recours à des archétypes. Pour cela, je vous invite à prendre une feuille de papier, un crayon si vous en avez la possibilité, ou peut-être de faire cet exercice un peu plus tard, ou même mentalement. Le premier point, ça va être de déterminer votre problématique du moment. Je vais vous inviter à vous centrer sur ce qui, aujourd'hui, crée un inconfort pour vous. Une situation qui présente soit un inconfort, soit une insatisfaction, quelque chose que vous aimeriez voir évoluer plus positivement. Ce peut être dans votre contexte professionnel ou personnel. Souvent, ça peut naître d'un écart entre ce que vous vivez et ce que vous aimeriez vivre. Quand vous l'avez, et si vous en avez la possibilité, je vous invite à l'écrire sur un papier en quelques lignes. Une fois que vous l'avez écrit en quelques lignes, nous allons faire ce que j'appelle convoquer nos héros. En fait, je vais vous inviter à penser à 4-5 mentors pour vous. Ce peut être des héros de fiction ou des personnages existants ou ayant existé qui comptent ou ont compté pour vous, que vous les connaissiez directement ou indirectement. Par exemple, pour moi, je pourrais prendre à ma table Nelson Mandela, Jacques Prévert, Armel, une metteur en scène avec qui j'ai travaillé quelques années et que j'admire beaucoup, Antigone et ma grand-mère. Une fois que vous avez vos 4-5 héros mentors, à présent, installez-vous à une table et imaginez autour de vous ces 5 héros de votre choix, auxquels vous aimeriez demander conseil par rapport à votre problématique. Imaginez-vous qu'ils sont là, assis à côté de vous, avec leurs atouts, leurs spécificités, leur caractère. Fermez les yeux, concentrez-vous, puis, en prenant votre temps, imaginez que vous les interrogez un par un. Ressentez profondément leurs réponses. Que vous dirait un Nelson Mandela, un Jacques Prévert, une Antigone, votre grand-mère? Alors ça, c'est les personnages que moi j'invoquerais, mais faites l'exercice avec bien sûr vos personnages, ceux qui ont compté pour vous. Quand vous avez pris ce temps de ressentir profondément leurs réponses, alors rouvrez les yeux et notez leurs réponses ou conseils par écrit. Voilà, cet exercice simple peut être fait assez facilement où que vous soyez. Et personnellement, j'y recours parfois et je le trouve très puissant sur ce qu'il permet de faire émerger. Et maintenant, du côté de l'entreprise, il peut être intéressant de regarder comment j'accompagne mes équipes. Est-ce que j'ai recours au conseil? Comment je favorise l'autonomie de mes collaborateurs? Comment je permets à mes collaborateurs d'apprendre et de s'appuyer sur leurs propres ressources? J'anime depuis 7 ans dans différentes entreprises des parcours de coaching entre pairs inspirés des groupes de co-développement professionnel qui permettent aux managers non seulement d'avancer sur leur situation inconfortable et insatisfaisante rencontrée dans leur quotidien professionnel, mais aussi d'apprendre à accompagner l'autre sans donner de conseils et ainsi ne plus être des apporteurs de solutions toutes faites pour leurs collaborateurs, mais de devenir des managers qui font grandir les collaborateurs en leur apprenant à apprendre. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce type de programme, vous pouvez me contacter sur lavieestuncompte.com. Nous arrivons à la fin de cet épisode et je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours où nous parlerons d'un mille-pattes et d'un éléphant. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestuncompte.com. À bientôt !